Bonjour à tous et bonjour à toutes. Demain, nous commémorons la destruction du premier et du deuxième temple. Ce jour, le 9 av, est marqué par un jeûne. Pour en parler aujourd'hui avec nous, le rabbin Gatzberg. Bonjour, monsieur le rabbin.
Bonjour, monsieur Chagrun.
Merci d'être avec nous. Je le disais, demain soir, ce sera le début du 9 av. Pourquoi jour de deuil ? Pourquoi jour de jeûne ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que à quelques centaines d'années de différence, on a quand même deux événements catastrophiques : destruction du premier temple, destruction du second temple. Tout ça à la même date. C'est quand même il y a 365 jours dans l'année que on est la poisse, entre guillemets, excusez-moi l'expression, d'avoir deux catastrophes qui arrivent à cette date-là. Et le calendrier juif, l'histoire juive, nous a montré qu'il y a encore énormément de mauvaises histoires qui sont arrivées à cette date-là. Ça interroge. Comment ça se fait que ça arrive à cette date-là, le 9 av? Alors les Chachamim nous expliquent, par exemple, les sages nous expliquent que c'est cette date-là aussi où nos ancêtres ont décidé de pleurer le jour du retour des explorateurs. Lorsqu'ils ont décidé donc de dépeindre une terre catastrophique dans laquelle tout allait mal se passer, et le peuple juif a décidé d'écouter, d'entendre, d'accepter ce compte-rendu très négatif, et ils ont pleuré. Alors Hachem, dans un esprit qui peut ressembler à un esprit de vengeance, mais c'est plus une histoire de eh ben, vous l'avez écrit comme ça, il va nous dire, vous avez pleuré pour rien. Malheureusement, s'il va y avoir des raisons de pleurer dans l'histoire, je me débrouillerai pour que ça arrive à cette date-là. Et donc, plusieurs histoires du peuple juif, la destruction de la ville de Bétar, le 9 av, le premier Beth Amikdash, le premier temple, le second temple, sont arrivés malheureusement à cette date-là. Des dates encore plus modernes, telles que dans l'histoire de l'Allemagne, on voit que le 9 av, il a été aussi marqué par des décisions catastrophiques. Ce 9 av est donc marqué d'une pierre, d'une marque rouge dans notre calendrier, malheureusement.
Et ce qui est intéressant toujours par rapport au Rabbanim, c'est qu'on explique clairement pourquoi le temple a détruit, c'est-à-dire on ne l'a pas détruit comme ça, il y a des raisons.
Tout à fait. Alors, quand on regarde le texte de la Gemara, le Talmud, il nous raconte que lors du premier Beth Amikdash, c'était des gens qui étaient très respectueux, entre guillemets, il faut mettre un petit bémol, parce qu'en fin de compte, ils étaient sérieux, mais bon, le meurtre, l'idolâtrie et les mœurs un peu trop légères étaient une habitude. Par contre, le second temple, le texte a l'air de nous dire que, en fin de compte, tout ce qu'on avait à nous reprocher, et ça nous paraît un petit peu léger, mais on va découvrir toute la portée de ce message, c'était cette haine gratuite que l'on se portait les uns les autres qui a amené à la destruction du second temple.
Alors, pendant ce jour-là du 9 av, on rappelle, c'est demain soir, pour les gens qui l'auraient oublié, ça peut arriver, on est pendant les vacances. Qu'est-ce qu'il y a comme loi, qu'est-ce qu'il y a comme dynime précis? Est-ce qu'on peut éventuellement les définir? Alors, juste, on va commencer par le début du jeûne. On a dit 21h25, ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrête la série d'Ashlichit un peu avant.
Exactement, 21h25. D'habitude, on n'a pas le droit de jeûner pendant Shabbat. Mais là, on fait une petite exception parce qu'en fait, la nuit, elle est déjà tombée, mais on rajoute chaque semaine pour le Shabbat parce qu'on veut pas dire que le Shabbat, il finit trop tôt, comme si on avait envie de s'en débarrasser. Mais donc, on va avancer un petit peu la fin du Shabbat juste du point de vue de la consommation. Donc, on arrêtera de manger à partir de 21h25, comme vous l'avez dit. On va après attendre tranquillement la fin du Shabbat et c'est seulement à ce moment-là que l'on va donc... Alors ça, c'est déjà, on va parler déjà des règles du jour de Tisha B'Av, du 9 av. C'est seulement à ce moment-là, après la tombée du Shabbat, après la sortie du Shabbat, on va donc enlever ses chaussures de cuir. On va porter des chaussures en toile ou des chaussures qui ne sont pas en cuir en fin de compte. C'est à ce moment-là qu'on va, on préconise que si on est habillé de Shabbat, si c'est un habit de Shabbat assez classe, eh ben on va nous demander de nous changer pour nous habiller en habit de semaine.
La
ceinture en cuir, ça ne porte pas à conséquence, aucun souci. C'est surtout sur les pieds, en fait, la forme. C'est pour ça que certains, de nos jours, il y a des baskets très, très, très confortables qui ne sont pas en cuir. La plupart des décisionnaires les autorisent, mais certains veulent se rajouter une petite souffrance. Et donc, ils n'aiment pas les grosses baskets très confortables qui ne seraient pas, même si elles ne sont pas en cuir. Mais la ceinture, ça ne pose pas conséquence. Ça ne porte pas conséquence. Et là, on va se diriger vers la synagogue avec notre livre de Tisha B'Av, du 9 Av. Chacun le sien, hein, les Sfaradim, les Ashkenazim. Et on va essayer de s'asseoir par terre pour la plupart.
Alors, ceux s'asseoir qui par terre, c'est quoi
ça, alors, ça, en fait, ça, c'est un signe de deuil. En fait, on va marquer un signe de deuil. Toutes les règles qui doivent être faites à le 9 Av, ce sont des règles que l'on fait malheureusement quand on a perdu un proche. Donc on va porter des chaussures en toile, on va être assis par terre ou alors sur un coussin, mais pas le plus proche du sol, pas sur une bonne chaise. Ceux qui en ont la difficulté, il n'y a aucun souci que ça soit sur une chaise normale, mais ceux qui en ont si encore on la peut. Capacité... On va s'asseoir là, le plus proche du sol. On donne même des chiffres à moins de 30 cm du sol pour ceux qui peuvent. Donc parfois, alors la synagogue, on voit toutes les formes de petits tabourets comme ça qui ont été achetés à droite, à gauche. C'est des bonnes idées pour pouvoir être assis convenablement parce que souvent la synagogue, elle dure un peu longtemps. En plus, on ne comprend pas tous ce que l'on lit. Alors du coup, au moins être assis convenablement pour pouvoir essayer de réfléchir à ce que l'on récite, ce que l'on appelle les keynotes.
C'est mieux de lire en français pour comprendre ou...
Toujours, ça par contre, c'est toujours. Dans la vie, quand on ne parle pas bien l'hébreu, on prend un livre en français et on comprend ce que l'on dit. Ça n'intéresse pas de réciter un texte que l'on ne comprend pas, que l'on ne va pas intégrer, que l'on ne va pas vivre, entre guillemets, ce qu'on nous demande de vivre.
Mais c'est un peu violent. Hein.
Quand on lit en français, du coup, ça devient violent.
En français,
ouais, mais du coup, ça nous permet de nous imprégner un petit peu de ce qu'on nous demande de faire à ce moment-là. On en reparlera un petit peu après. Mais pour finir avec les règles, eh ben, ce soir-là, cette nuit-là, donc ce samedi soir, eh ben, on ne dormira pas dans le même lit que son conjoint ou que sa conjointe. On ne se lavera pas, on ne fera pas de douche, bien entendu. On ne fera pas de toilette. On se lavera les mains jusqu'à la moitié. Encore une fois, toutes ces règles sont toutes pour toutes celles qui, toute personne qui en a la capacité, qui en a la force. Et on ne se mettra pas forcément de pommade, etc. Tout ça sera en vigueur jusqu'au lendemain. Tout ce que je vous ai dit sera en vigueur jusqu'au lendemain, jusqu'à dimanche, donc ouais. 13h35.
Ça,
Après 13h35, on peut on peut s'asseoir sur une chaise, on a déjà le droit de se laver les mains un peu de manière plus complète. On va avoir le droit d'avoir de s'asseoir dans le même canapé ou de se coucher dans le même lit que sa femme.
On m'a dit même qu'il y avait des minagim comme quoi à partir de Khatsot, on parle bien à partir de Khatsot, certaines femmes faisaient un peu le ménage de mini-ménage de Pessah, préparer des bons repas pour le soir.
Exactement.
C'est permis ?
Alors, c'est autorisé. Alors, la vérité, c'est que si on en croit le Midrash, le Mashiach est né, alors on espère qu'il est né au passé, et non pas qu'il va naître, mais il est né le jour de Tisha B'Av. Et il va porter un nom qui va nous consoler. Certains l'appellent Menachem, parce que Menachem veut dire consolation. Et donc... Ce Mashiach, il est né, il va naître le jour de Tisha B'Av, il va essayer de nous consoler. Alors du coup, nous on est des croyants. Alors on se dit, ça y est, il est né ou il va naître. Et donc du coup, on commence à faire la fête.
D'accord,
alors on nettoie la maison et on essaye de préparer, entre guillemets, la fin de ce jeûne. Mais si vous me permettez, tout à l'heure, vers la fin, j'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est pile à ce moment-là que ça arrive, pour que Khatsot est un déclencheur d'un soulagement. Ça, on
va apparaître dans un instant. On va revenir sur le dinim. Donc, la journée se continue comme elle doit se continuer. Pas le droit d'écouter de la musique toujours ?
Alors, ça fait depuis le 17 Tammuz qu'il fallait arrêter d'écouter de la musique, mais on n'a toujours pas le droit d'écouter la musique jusqu'au soir. On n'a pas le droit de se raser, pas le droit de se couper les cheveux, bien entendu, ce jour-là, cette soir-là. Et on n'a pas le droit de manger de viande, bien entendu, même pour des personnes qui ne jeûneraient pas, à moins que ce soit un problème. Ils
médical,
ont un besoin médical, bien entendu. Mais sinon, on évite de manger de la viande.
Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur la fin du jeûne, c'est 22h27. Évidemment, il faut aller à la synagogue parce qu'il y a des lectures de keynote et aussi l'après-midi, la lecture de la Torah, ce qui est important. Il y a souvent des questions où il y a des gens qui supportent très mal En plus, s'il fait chaud et qu'il y a une idée de confinement, il y a des gens qui ne vont pas supporter. Est-ce qu'il y a des règles à ce niveau-là?
Alors, la Torah, elle
Parce
voit
que
dans...
si j'ai vraiment très soif
Bien sûr.
et je risque une insolation, j'ai le droit de boire au moins un quart de verre d'eau.
Alors, la Torah, elle voit d'un très mauvais œil toute personne qui se forcerait à faire quelque chose qu'elle n'est pas capable de supporter. Et donc, elle en voudrait énormément à une personne qui se rend malade à cause d'un jeûne. Mais étant donné qu'on n'est pas tous capables de connaître les limites de nos capacités et de notre condition physique, alors généralement, on demande quand même on va s'en remettre à un rave. Il y a des rabbanim qui sont très compétents, on va les appeler, on va exposer notre problème exactement, et il y aura une réponse qui sera adaptée à chaque cas. Aucun cas ne peut être comparé l'un avec l'autre, mais je répète, la Torah voit d'un très mauvais œil une personne qui se mettrait délibérément en danger, en maladie, parce qu'il veut se forcer à jeûner, surtout dans cette période où il va faire très chaud, dans cette période où on est en crise sanitaire encore. Il faut impérativement s'en remettre à un rave pour ne pas se mettre en danger et faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire.
Enfin, quand quelqu'un tourne de l'œil, vaut mieux lui donner
Ah, il n'y a même pas
un
de
peu à
question.
boire, hein.
Bien entendu, quand
Voilà,
quelqu'un tourne de l'œil, sans appeler aucun rave avant, là, à ce moment-là, on donne directement à boire. On est en train de parler d'une personne qui se sentirait un peu faible au milieu de la journée. Il ne sait pas s'il va tourner de l'œil ou s'il ne va pas tourner de l'œil, mais en fin de compte, quand il se repose devant un ventilateur, ça va un peu mieux. Alors à ce moment-là, il va quand même passer un petit SMS ou un petit coup de fil à un rave pour s'assurer s'il prend la bonne décision. Mais dans l'absolu, voilà, on va essayer de se ménager. C'est un moment où on essaye de se ménager, on se met devant un ventilateur, on reste à la maison, on n'a qu'à regarder un petit film sur la Shoah, c'est toujours
Alors ça, on peut
d'actualité.
faire?
Bien entendu. Alors un film sur la Shoah, on peut, bien
Ah bon,
entendu. Un
pourquoi?
film, en fin de compte, peut-être pas un film sur la Shoah qui est réjouissant, mais un film sur la Shoah, généralement c'est rare, mais un film sur la Shoah qui, en fin de compte, va nous faire réfléchir.
Pas de comédie, alors, pas
Non,
de
pas
l'aile ou
de
la
comédie.
cuisse ou un truc comme
Non,
ça.
non, pas ça, non.
Alors, le 18 juillet, on rappelle, début du jeûne, samedi soir, 21h25, demain, la fin du Shabbat, 22h27. J'ai une question qu'on nous pose souvent, puisque j'ai fait dans ma jeunesse des colonies de vacances sur les enfants qui ont moins de 13 ans. Est-ce que vous êtes plutôt du camp de dire que ils ne jeûnent pas, il n'y a pas de discussion? Ou vous êtes plutôt du camp en disant l'enfant a le droit de choisir comment on gère?
Alors, encore une fois, ça dépend beaucoup. Moi, j'ai un enfant de 12 ans, j'ai plusieurs enfants, mais j'ai un enfant de 12 ans et un enfant de 10 ans. Celui de 12 ans, il n'a aucun souci. Il peut jeûner sans aucun problème, ça ne lui dérange pas, etc. Celui de 11 ans, même 2 heures, ça le fait souffrir. Alors, du coup, je ne sais pas comment ça va se passer quand il va être bar mitzvah. Je pense qu'il faut, au lieu de. Ça veut dire qu'on va avoir du mal à faire des règles. Mais chacun, il doit se sentir comme il.
Enfin, on peut
Comme on
demander
va,
à un enfant
exact.
de manger.
Bien entendu, ça de toutes les façons, il n'y a aucune mitzvah. Mais s'il a aussi envie, il ne faut pas en faire une histoire. Peut-être pas Tisha B'Av, c'est un peu trop long. Mais s'il a aussi envie de jeûner et qu'il en sent la capacité, que vous voyez qu'il en est capable, il faut pas, il n'y a pas d'interdit de jeûner aussi. Moi, ce que je parle, ce que j'invite chaque parent, c'est d'essayer de travailler ça en association avec l'enfant. Il y a des enfants qui sentent l'envie, qui se sentent la
Bon,
force.
elle est connue en plus, ces enfants en général.
Exactement. Alors à ce moment-là, on a le droit de le laisser faire. Mais bien entendu, encore une fois, jamais, au grand jamais, ne se mettre en danger. La santé avant tout. On ne jeûne pas si on jeûne mal. On ne jeûne pas si on va se sentir mal, si on va tomber malade. Et les femmes aussi, quand elles ont accouché de moins de 2 ans, quand elles ont eu beaucoup d'enfants, quand elles sont faibles, etc. C'est pas là-dessus. Je préfère beaucoup plus qu'on va faire des efforts surhumains et drastiques dans le respect du Shabbat, des choses qui sont complètement folles d'un point de vue éthique, entre guillemets, mais que me permettre d'être indulgent sur le jeûne quand, en fin de compte, ça va amener à une maladie, je trouve ça pas très intelligent.
Et alors, comment on explique justement Tisha B'Av? Quand on va vous voir, on vous dit, Monsieur le rabbin, Gad Sabah, vous êtes très sympathique, parlez-moi, expliquez-moi Tisha B'Av, vous dites quoi?
Alors déjà, je lui dis qu'il aille voir un autre rabbin, parce qu'à Tisha B'Av, on ne va pas voir les rabbins sympathiques, mais bon, allez, pour
Bon,
l'occasion,
ouais, on peut faire une exception.
Pour l'occasion, je mettrai mon voile de moins sympathique et j'essaierai de lui expliquer la chose suivante.
Justement, sur ça, on en rigole, mais il y a effectivement une façon de se comporter.
Entre le soir, oui, entre samedi soir et Khatsot, on évite
les blagues.
Les blagues, on essaye d'éviter. On évite, par exemple, la halakha, elle nous demande même de ne pas nous dire bonjour. Alors, c'est exagéré. On va répondre bonjour. On va peut-être dire bonjour si on se sent, parce que pas tout le monde ne connaît la halakha.
Il y a beaucoup de gens qui font le signe.
Voilà,
de la
exactement.
Tête.
Alors, on va essayer de garder une forme de retenue, au moins jusqu'à Khatsot. On va essayer de montrer un petit peu qu'en fin de compte, notre vie, elle est marquée par quelque chose. Quelque chose. Vous avez utilisé le mot commémorer. Au tout début de cette interview, mais le mot commémorer, c'est chez nous, il est encore plus fort, il est revivre. On ne peut pas vivre un jour de Tisha B'Av, jour où en fin de compte on a eu justement cette destruction de deux temples et d'autres catastrophes, si quelqu'un il est à fond dedans, il peut pas se dire tiens j'ai tout oublié, j'en ai rien à faire et je dis bonjour, bon je vais lire les textes, je vais essayer de verser une larme parce que c'est bien. Et je passe à autre chose. Si quelqu'un il s'imprègne réellement de ce qui est en train de se passer, on est en train de vivre un moment catastrophique. D'autant que nos sages nous expliquent que tant que le Beth Amikdash, le temple, n'a pas été reconstruit, ça veut donc dire que s'il était à ce moment-là, il aurait été détruit par ma faute. C'est-à-dire la non-construction est une destruction. Et donc ça fait près de 1950 ans que le temple n'a pas été reconstruit. Ça veut donc dire que ça fait 1950 ans que chaque année, il aurait pu être détruit à cause des personnes qui vivent. C'est-à-dire, M. Chekroun, que si le temple n'a pas été reconstruit cette année, ça veut dire que vous et moi, on continue à perpétuer les erreurs de nos ancêtres, celles qui étaient de se haïr les uns les autres. Si on n'a pas réussi à le reconstruire, donc quelqu'un qui prend conscience qu'en fin de compte, à cause de lui, le temple est détruit maintenant, pas il y a 1950 ans. Il est redétruit maintenant parce que tu n'as pas réussi à le reconstruire. Il ne peut pas rester la même personne. Il ne peut pas rester dans une désinvolture. Il sera obligé d'être marqué par une gravité. Le temple est détruit à cet instant. Et c'est ça que, justement, on raconte que Napoléon était passé devant une synagogue et qu'il avait vu donc, les Juifs pleurer, être en deuil à la synagogue. Et il avait dit, c'est beau, ce peuple qui, en fin de compte, vit de manière si actuelle à un fait historique de plus de 1000 ans, c'est forcément un peuple qui va revoir cette reconstruction. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Maintenant, si je dois expliquer d'une manière très simple, entre guillemets, ce qui se passe à Tisha B'Av, en plus de ce qu'on a déjà développé, ce serait d'essayer de réaliser un petit peu que l'histoire qui est la plus connue, celle qui aurait amené une partie de la destruction du temple, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé, lors du mariage de son fils, qui a refusé de fermer les yeux à la présence d'un de ses ennemis.
Comme ça, et barre comme
exactement.
Ça.
Exactement. Donc, je me retrouve. On va essayer de se visualiser. Je suis au mariage de mon fils. Je vois mon ennemi. Je lui dis, sors d'ici. Et mon ennemi me dit, tu vas pas me faire la honte. Je suis prêt à payer ma part. Il dit non, ça ne me suffit pas. La moitié. Non, non, je ne veux pas. La totalité. Non, je ne veux pas. Maintenant, mettons-nous à la place de cette personne-là, de moi. Je suis en train de refuser de faire le mariage de mon fils à l'œil, gratuitement, pour faire vivre une haine. Mais il a fait quoi, cet homme, pour qu'il mérite que je lui fasse cette honte ?
Est-ce que ce n'est pas à cause de nous, justement ? Est-ce que ce n'est pas nous, les gens autour ? Les rabbins qui étaient là, d'aller voir l'organisateur du mariage et de lui dire, bon, écoute, calme-toi, c'est pas grave, etc. Il n'y a pas aussi un problème à ce niveau-là.
Alors ce bonhomme, il va justement en vouloir aux rabbins qui n'ont pas. Et c'est pour ça qu'il va essayer...
Les rabbins ou les autres.
Bien sûr, ou les autres, mais spécialement les rabbins qui n'ont pas, justement, qui ne sont pas intervenus. Et il va donc les rendre responsables. Mais moi, ce qui m'étonne toujours quand j'étudie ce texte du Talmud, c'est qu'on ne nous raconte pas pourquoi est-ce qu'ils se détestaient. Comme si cette raison... Parce que peut-être qu'il y a des raisons qui sont légitimes, ou peut-être que ce n'était pas légitime, mais pourquoi on ne nous le dit pas ? Et là, on est en train de nous expliquer quelque chose de très fort. Quelle que soit la raison pour laquelle ils étaient en dispute, quelle que soit la raison... Il ne faut jamais faire sortir un homme du milieu de son peuple. Malheureusement, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, il y a une forme de fracture parfois entre les Juifs dans le peuple. Et on n'essaye pas d'intégrer tout le monde, mais parfois on est bien content d'en exclure un. Et on se dit qu'on a fait une mitzvah parce qu'on a démontré le mal on a montré du doigt le mal et on l'a extrait de notre peuple. Notre force sera dans notre unité. Lorsque l'on va prôner une unité complète, sans aucune réflexion, c'est à ce moment-là qu'on va réussir. Alors à Tisha B'Av, c'est ça qu'on doit essayer de réfléchir. Mais je vous disais tout à l'heure que...
Bon, on ne dit pas bonjour, on ne parle pas.
Exactement.
C'est vraiment le jour où on parle le moins à la synagogue.
Exactement.
Alors comment on peut faire la hardou?
En fin de compte, c'est qu'on est tous unis dans cette galère et on essaye tous de la reconstruire. Si on est unis dans cette galère, bah par exemple, quand une famille est en deuil, ils vont peut-être pas se dire bonjour, ils vont vivre ensemble une vie de famille, mais ils souffrent ensemble. Quand on souffre ensemble, c'est une autre forme d'unité. Mais on doit souffrir ensemble et on doit se dire qu'on est tous responsables. Et lorsque l'on va travailler sur cette responsabilité commune, unique, mais en même temps générale, à ce moment-là, on va travailler pour cette reconstruction. Je vous disais tout à l'heure que Khatsot était un moment incroyable, un moment qui, en fin de compte, on va rabaisser. Pourtant, dans l'histoire, c'est justement à Khatsot que le temple a encore plus brûlé. Il a commencé à brûler le soir du 9 Av. Mais au moment où le temple était au summum de son incendie, c'était à Khatsot. Et c'est pile à ce moment-là que les sages ont décidé d'amoindrir le deuil. Alors par exemple, certaines règles restent d'actualité, même le soir de Tisha B'Av, on ne se rase pas encore, on ne se coupe pas encore les cheveux, on a le droit de se laver, mais...
On attend le lendemain soir.
Mais on attend le lendemain, exactement. On attend peut-être pas, ouais, pour Khatsot, on va dire, même la viande, on ne la mange que le lendemain à Khatsot. Pourquoi? Parce que l'essentiel du Beit HaMikdash a brûlé la nuit du 10. Et pourquoi est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là le 9 Av et pas le 10 Av? Parce que le début est douloureux. Mais quand on arrive au paroxysme de la destruction, à ce moment-là, on sait qu'à ce moment-là, on ne peut que monter. Et on sait que cette phrase-là que l'on adore tous, « Netzach Israël lo yeshaker », l'éternité du peuple juif, ne sera jamais remise en question. Et donc quand on est au summum, on est le plus bas, et que c'est à ce moment-là que le Beit HaMikdash est en train de brûler à son paroxysme, c'est à ce moment-là que nous, on décide d'enlever des règles de deuil, parce qu'à ce moment-là, on sait que Dieu nous promet que l'on va se relever, que l'on va réussir à reconstruire grâce à ce deuil général et généralisé. On est sûr qu'on va pouvoir se reconstruire, d'où le Midrash que le Mashiach naît ou va naître à... Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que si un homme vient me voir et me dit « je suis le Mashiach », admettons que j'arrive à déterminer que ce soit vrai, est-ce que s'il n'est pas né le 9 Av, je ne vais jamais dire qu'il était... Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est une idée. C'est une idée que c'est à partir de ce... On est au plus bas, c'est à ce moment-là qu'on peut tout reconstruire.
Juste une règle encore que j'avais notée, qu'on n'en a pas parlé, et c'est assez intéressant, c'est qu'il paraît qu'on n'a pas le droit d'étudier
tout
autre
à
chose
fait.
Que des textes sur la destruction du temple.
Tout c'est à bizarre, fait, ça. Exactement. Bah, en fait, l'étude, une étude de qualité, c'est une étude qui nous réjouit. Je ne connais pas d'homme plus heureux qu'un homme qui vient de découvrir une page de Gemara, page...
C'est par rapport à la réjouissance.
Exactement, une réjouissance incroyable. Même un homme, un endeuil, encore une fois, il n'a pas le droit d'étudier par les règles de deuil. C'est une réjouissance, la réjouissance intellectuelle, c'est celle qui est la plus forte. Et donc, l'étude sera proscrite.
Merci, Rabbin Gatzabag. On rappelle que vous êtes le rabbin de la synagogue de l'Office Weiler. L'allumage des bougies, c'est comme d'habitude pour ce soir vendredi. On rappelle le jeûne, c'est demain 18 juillet à partir de 21h25 et la fin du jeûne, c'est dimanche soir à partir de 22h27. Je vous remercie et Tzomkal, bon jeûne.
Tzomkal, un bon jeûne à tous. Shabbat shalom, merci beaucoup.